Marion Viguier, vous êtes responsable du tiers-lieu des jardins d'Haïti sur Marseille. Nous allons évoquer justement cette maison à vivre un peu plus tard parce qu'il se passe beaucoup de choses. Auparavant, évoquons les jardins du Cigaloun, la maison à vivre qui se trouve sur Vaux. Pourquoi est-ce une maison à vivre qui est un petit peu différente de celle des autres? Qu'est-ce qu'on essaie de développer là-bas?
Donc la maison à vivre de Vaux, à la base, c'est un EHPAD que nous, on ne veut plus appeler EHPAD, et d'ailleurs l'État non plus, qui a changé de nom, mais ça fait un petit moment qu'on a choisi le terme maison à vivre. Tout simplement, ça nous donne envie de créer un lieu de vie qui est rempli de joie et de rencontres et de ponts entre les mondes. Donc c'est ça la motivation. Pourquoi elle est différente des établissements? Parce qu'il y a énormément d'événements qui font qu'il y a des rencontres intergénérationnelles. Je vais donner des exemples. Par exemple, le mardi et le vendredi, il y a des assistantes maternelles qui viennent avec les enfants qu'elles gardent dans la maison. Donc évidemment, les résidents rentrent en lien avec eux. Les mercredis, c'est des grosses journées où il se passe plein de choses. Il y a un ranch avec des poneys, donc il y a une initiation au poney avec des enfants du territoire. Il y a des cours de musique qui sont accessibles par les enfants, par des adultes de l'extérieur, des familles, des résidents, des salariés évidemment. Donc ça mélange absolument tout le monde. On a aussi des partenariats avec l'association Le Club des 6, donc c'est 6 personnes en situation de handicap qui sont juste à côté de la maison de Vaux et qui viennent bénévolement participer en fait au service de la maison, à par exemple faire le service en restauration ou tout simplement participer aux animations, à la vie de la maison. Il y a des concerts, il y a de la relaxation sonore aussi bien pour les résidents et après pour les salariés, parce qu'on voit à quel point ça fait du bien.
Oui, je me permets de vous couper, c'est avec Stéphanie Demorand qui est sonopraticienne, oui. Gongmaster Porteurs d'eau, qui m'a mise en relation justement avec les jardins du Cigaloun, où elle œuvre justement pour des séances de relaxation pour les résidents et pour l'équipe.
Exactement, et merci beaucoup à elle. Et du coup, elle nous fait beaucoup de bien à tous. Et l'idée, c'est d'ouvrir ce créneau également à tout le monde, donc en même temps que les salariés ou les résidents. Et c'est assez exceptionnel comme moment, les vendredis. Il y a aussi des cours de théâtre à partir de l'année prochaine, qui seront de la même manière ouverts à l'extérieur, donc pour mélanger et résidents et personnes en visite. Donc tout ça, ça fait qu'il y a énormément de monde dans la maison et beaucoup de vie, beaucoup de partage, beaucoup de rencontres dans le simple objectif de dédramatiser le quotidien.
Alors oui, justement, nous allons développer, Madame Viguier. Il existe également les jardins d'Haïti, dont vous êtes responsable sur Marseille. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots ou plus cette maison à vivre?
Alors, les jardins d'Haïti, donc je suis moi responsable du tiers-lieu des jardins d'Haïti. C'est une maison familiale. En fait, c'est le frère de Laurent Boucreau qui est directeur de la maison à Vaux. Donc Stéphane qui est directeur de la maison à Vaux. Laurent, son frère, qui est directeur de la maison des jardins d'Haïti à Marseille. Donc c'est vraiment une histoire familiale. Cette maison, elle a été fondée en 1950 par l'arrière-grand-mère de Laurent et de Stéphane. C'est poursuivi de génération en génération avec toujours les mêmes valeurs de bienveillance, d'humanité, de joie et de partage. Et à chaque fois qu'une nouvelle personne a pris la direction, il y a apporté quelque chose de nouveau. Et en fait, avec l'arrivée de Laurent, il y a vraiment eu cette envie d'ouvrir la maison sur l'extérieur pour répondre à une problématique, celle du vieillissement de la population dans cet établissement et donc de la plus grande incapacité à sortir vers l'extérieur. Donc comment faire partie encore de la société sans pouvoir sortir à l'extérieur? Tout simplement ouvrir les portes et faire venir le monde à nous. Donc ça a commencé par déjà un réaménagement global de la maison, des gros travaux vraiment, pour faire des espaces plus grands, plus lumineux, où on peut accueillir vraiment plus de monde dans un même espace. Il y a un patio très agréable à l'intérieur. Après, le premier projet du tiers-lieu, ça a été l'ouverture de la crèche, donc une micro-crèche au sein de l'établissement. Et suite à ça, il y a eu une école de musique au sein de l'établissement. Il y a eu un logement étudiant, donc il y a toujours 2 étudiants qui vivent à l'année en échange de leur temps donné aux résidents. Il y a un espace de coworking, donc tous les espaces communs sont ouverts au public extérieur pour travailler, pour venir boire un café, pour manger également. Donc le restaurant est ouvert. J'en ai dit pas mal et après on fait énormément d'événements ouverts sur l'extérieur, type concerts, des partenariats avec plein d'associations, des partenariats avec des IME où on reçoit beaucoup de jeunes, des partenariats avec des écoles. Encore ce matin, il y a une super animation, c'est toute une école de CM2 qui est venue pour un atelier de cuisine. Et le but, c'était de partager une recette de cuisine entre résidents et enfants et après de partager le repas. Voilà. Et ça, des animations comme ça, il y en a vraiment toutes les semaines, voire tous les jours.
Oui, on a bien compris les grands principes qui guident vos actions auprès des résidents. Quels besoins des personnes âgées cherchez-vous à satisfaire au-delà des soins médicaux? On a bien compris, mais c'est très important justement ce concept d'intergénérationnalité.
Nous, notre mission, c'est de leur apporter de la joie et de l'aide simplement, déjà avec un sourire d'une personne qui n'aurait pas passé la porte. Quelqu'un qui vient juste travailler avec son ordinateur et qui sourit aux résidents, ça fait du bien, en fait. Ça fait du bien, ça change l'énergie, ça transforme en fait le quotidien. Et évidemment, quand on va encore plus loin que ça, c'est encore mieux. Il se trouve qu'il se passe des événements exceptionnels grâce aux rencontres qu'on fait avec les visites de l'extérieur. On fait des tables d'hôtes tous les mardis en lien donc avec des résidents et deux personnes de l'extérieur qui s'inscrivent au gré de leur envie. Et suite à ça, on a vraiment eu des super événements. Il y a Bastien qui donne des cours de théâtre d'impro maintenant aux résidents et qui était venu en fait juste partager la table d'hôtes. On a eu des concerts de jazz. Et on a vraiment eu de super événements grâce à ces rencontres. Donc ça, c'est l'apogée et même c'est on n'y pensait même pas. On est super satisfaits et même épaté de cette réussite, parce qu'à la base c'était simplement pour apporter de la joie et de la nouveauté dans la maison.
Peut-on observer un bénéfice sur la santé des résidents ou même la santé mentale lorsqu'ils côtoient des enfants, des étudiants ou des actifs?
Ça leur fait du bien automatiquement, même s'ils sont que spectateurs, de voir des enfants jouer, courir, prendre leur cours de violon. On voit que les visages s'adoucissent, qu'il y a des sourires. Et évidemment que ça leur fait du bien.
Et à l'inverse, qu'apportent les résidents aux plus jeunes générations, par exemple?
Il y a une transmission, en fait. On voit que le lien se fait très naturellement, très spontanément avec les enfants et même les jeunes. Et il y a beaucoup de bienveillance, beaucoup d'écoute. Donc je pense que vraiment, naturellement, ils développent vraiment ces côtés-là de bienveillance et d'écoute pour les enfants.
Alors revenons, si vous le voulez bien, un instant, Madame Figuier, sur la crèche et les enfants. Bon, c'est assez original. Comment est née cette idée, justement?
L'idée, elle est venue de Laurent Boucreau, de se dire que c'est tellement dommage de mettre ces deux mondes qui vont si bien ensemble, s'éloigner dans la société. Donc son envie première dans le tiers-lieu, ça a été de créer une crèche au sein de l'établissement pour voir en fait des enfants courir au milieu de la maison pour faire du bien aux résidents et inversement, évidemment. Voilà, c'était une envie toute simple, celle de voir des enfants et des plus vieux ensemble. Et voilà comment est né le projet.
Oui, comme on a toujours fait d'ailleurs. Avant, les anciens vivaient en famille et restaient dans leur famille. Les familles des enfants, comment elles réagissent? Est-ce qu'elles réagissent, je pense, positivement à cette proximité avec les seniors?
Oui, c'est souvent quand même leur envie de partager et de profiter de ce projet si elles mettent leurs enfants dans cette crèche. Et évidemment qu'elles trouvent ce projet hyper sensé et intéressant pour leurs enfants. Donc elles sont ravies.
Et concernant les étudiants et puis cette solidarité, vous accueillez donc des étudiants. Comment fonctionne ce dispositif concrètement?
Alors, donc là, je vais parler de deux étudiantes parce que c'était le cas, c'était deux jeunes filles cette année. Donc les deux étudiantes vivent dans la maison. Elles ont un appartement à elles avec deux chambres et de quoi vivre vraiment indépendamment. Elles donnent 7 heures de leur temps par semaine à la maison, donc aux résidents, en animation en gros. Et elles font ce qu'elles aiment pour être à l'aise dans ce qu'elles proposent. Donc ça peut être des ateliers de pâtisserie, ça peut être une animation musicale parce qu'elles sont musiciennes, ça peut être des groupes de paroles, ça peut être des jeux, tout un tas de choses où elles se sentent à l'aise pour, encore une fois, créer du lien, faire du bien. Et en échange de ça, elles ont leur appartement gratuit.
Bien sûr. Est-ce que vous pensez également que la cohabitation permet de changer le regard des jeunes sur le vieillissement?
C'est évident. Ouais. C'est évident parce que là, en un an, il y a vraiment des relations des liens forts qui naissent entre étudiants et résidents. Et je pense qu'elles, enfin, j'aimerais qu'elles soient interviewées d'ailleurs, mais elles ont forcément changé de regard sur les personnes âgées.
Oui, bien évidemment. Concernant le coworking et l'ouverture justement sur l'extérieur de cette maison à vivre, comment les résidents vivent-ils la présence de professionnels ou d'entrepreneurs au quotidien?
Parfois, ils sont surpris, ils se demandent ce qu'ils font avec leurs ordinateurs. Donc, ils vont naturellement poser des questions. Et forcément, les coworkers, s'ils viennent chez nous, c'est qu'ils savent, qu'ils vont être dans un établissement un peu particulier, qu'ils ne sont pas dans un café traditionnel. Donc, ils s'attendent à faire des rencontres et à, pourquoi pas, discuter de leurs projets avec les résidents. Et on voit vraiment des scènes incroyables comme... J'ai encore une scène dans la tête d'un coworker qui est installé à une table et pour sa pause, il a pris une guitare parce qu'il y a des instruments de musique à peu près partout dans la maison parce qu'on aime beaucoup et qu'on a une école de musique. Et pour sa pause, il a joué un air de guitare et il y avait une résidente en face de lui et tout simplement, il lui a fait passer un bon moment. Enfin, ils ont passé un bon moment ensemble sur le temps de sa pause. À la fin de la journée, je suis allée le voir pour le remercier, mais c'est lui qui nous a remercié parce qu'il a passé une journée hors du temps. Donc ça fait vraiment chaud au cœur.
Oui, et puis j'imagine que finalement, tout au long de l'année, tout le monde se connaît, se côtoie, s'apprécie. C'est comme une grande famille. Par exemple, quel serait le moment de la journée qui reflèterait le mieux l'esprit des Jardins d'Haïti?
C'est une bonne question. En fait, il y a vraiment plein de moments. Il y a aussi bien le matin, parce qu'on a un bar et donc on adore partager le café, le petit déjeuner où tout le monde se mélange, aussi bien salariés que résidents, que visiteurs, que familles. Il y a aussi les apéros live qu'on fait sur le temps de l'été, où on fait venir des groupes de musique qui jouent en live de 16h à 18h. Et pareil, de nouveau, les portes sont grandes ouvertes. Donc on danse tous ensemble. Et là, c'est incroyable au niveau de l'énergie et des émotions. Tous les jours, vraiment, il y a les tables d'hôtes, il y a tous les événements qui en découlent. On est toujours surpris de tout ce qui se passe ici, vraiment avec beaucoup de positivité et d'optimisme.
Pensez-vous que le modèle traditionnel des EHPAD doit évoluer et pourquoi, Madame Viguier? On l'aura bien compris, hein, mais...
Je pense que nos aînés méritent au moins ça et égoïstement, j'espère que nous aurons ça, la chance d'avoir ce type de maison aussi bien plus répandue en fait, parce que être vieux, ça ne veut pas dire être mis sous une cloche et ne plus bouger. C'est tellement triste de finir sa vie comme ça. Le but, c'est d'être encore mélangé, de participer encore à la société, de transmettre, d'avoir encore des émotions, de vivre. D'avoir de la joie, même si le corps n'est plus capable, même si la tête n'est plus capable, il y a plein d'autres moyens de vibrer. Donc, on se bat pour ça et on se bat pour que cette idée-là se répande au maximum.
Eh bien, Madame Viguier, je vous remercie. Je rappelle que les jardins du Cigaloun se trouvent à Vaux et les jardins d'Haïti sur Marseille. Vous pouvez réécouter cette interview sur notre site internet fréquencemistral.com, onglet Manos, que vous trouverez les contacts. Je vous remercie, Madame Viguier.
Merci à vous.
Écoutons Stéphanie Demorand, sonopraticienne Gong Master, qui réalise des séances pour les résidents et le personnel des jardins du Cigaloun à Vaux. Stéphanie Demorand, vous êtes sonopraticienne et vous intervenez, entre autres, à la maison à vivre Les Jardins du Cigaloun à Vaux. Je précise que c'est un EHPAD. Nous y reviendrons plus en détail tout à l'heure. Tout d'abord, présentez-nous votre métier et vos diverses activités.
Je suis sonopraticienne et gong master, c'est-à-dire que j'ai été formée pour jouer du gong, qui est un des instruments majeurs pour la relaxation sonore. Depuis plusieurs années, j'accompagne les personnes à travers le son, les vibrations, les espaces de détente guidés qui soutiennent le corps, les émotions et le système nerveux. Alors j'utilise donc le gong, des bols chantants, le tambour et divers instruments comme koshi, tingsha, flûte, de toutes les manières un terrain d'apprentissage et de partage. Ce sont des instruments vibratoires que je joue intuitivement comme un véritable orchestre au service de l'apaisement et du mieux-être.
Les séances s'adressent à des adultes?
S'adressent à tout âge, il y a des spécificités. Une femme enceinte en début de grossesse, on lui conseille pas forcément de venir à mes séances à cause des vibrations puisque c'est des soins vibratoires. Une personne qui un pacemaker ou qui a des broches dans le corps. Ce sont uniquement des instruments qui vont aller toucher vraiment au plus profond de soi-même physiquement. Donc c'est déconseillé. Maintenant, tout est possible, il suffit de s'entretenir avant et de demander pourquoi les personnes viennent déjà me trouver.
Alors vous dites que ça touche au plus profond, mais bien sûr sans agressivité.
Ah non, aucune, c'est fait avec bienveillance et vraiment le but premier, c'est de le lâcher prise. De nombreuses recherches montrent que les états de relaxation sonore favorisent une baisse du stress, soutiennent la régulation du système nerveux autonome et diminuent le cortisol, c'est l'hormone du stress, et accompagnent le passage vers des états cérébraux alpha et thêta, on va dire proches du sommeil, souvent associés au relâchement, ça aide à l'imaginaire, au repos et à l'intégration émotionnelle.
Donner des séances collectives et individuelles ?
Tout à fait, je donne des séances collectives, que ce soit dans des salles des fêtes, comme dans une église, enfin tout ce qui peut être proposé, même pour un événement particulier, un mariage, une célébration en famille, et puis individuel, je reçois autant une personne qu'un couple, que des sœurs, enfin j'ai eu tous les cas de figure. Il y a un peu, pas forcément une discussion en amont, c'est surtout sur place, parce que j'estime que c'est plus pertinent. Peut-être une question quand même concernant ce que je disais tout à l'heure, si j'apprends que la personne est enceinte, je lui demande à quel stade, etc. Il faut savoir que ce sont des accompagnements qui sont très importants dans le cadre du cancer, par exemple, ou de certaines pathologies, parce que, évidemment, si on arrive à se détendre et à lâcher prise, le corps suit. Donc ça ne peut être que bénéfique. Les émotions retrouvent du mouvement, l'énergie circule dans le corps, on est plus centré et plus relié à soi.
Et vous vous déplacez dans toute la région ?
Dans toute la région PACA, principalement Marseille, Aix-en-Provence, Réan où j'habite, Fort-Calquier, Manosque, enfin je vais jusqu'à Puget-sur-Durance et j'ai même été dans le nord pour faire ce qu'on appelle une puja, c'est une cérémonie avec du gong toute la nuit. Mais j'explore tout ce qui est possible d'explorer en extérieur aussi, en intérieur et comme je l'ai dit, j'aime les lieux qui sont chargés, qui sont beaux, qui peuvent aussi amener du plaisir à venir visiter et pouvoir se déposer. J'ai commencé à me former il y a maintenant on va dire 6 ans. Le gong, je l'ai rencontré il y a 5 ans, donc j'ai fait mes premiers bains de gong, ça s'appelle comme cela, il y a 5 ans. Les séances individuelles, je les ai commencées il y a 6 ans. Donc il y a une réelle progression, quoi qu'il en soit, dans ma pratique, et même par rapport à moi-même, dans ma vie professionnelle qui est devenue mon activité principale, et dans ma vie personnelle, c'est un vrai cheminement spirituel.
Pour les éditeurs qui n'auraient jamais rencontré ou approché ou écouté un gong, quelle particularité à cet instrument ?
Alors le gong, c'est déjà issu, on va dire qu'on l'utilise dans les temples en Asie, on a pu voir, ça va pas être le gong dans, je sais pas quel film, mais genre type Kung Fu, où on va taper très fort dessus, et où c'est un appel à la prière ou à la méditation. Ça a été, on va dire, utilisé pour le yoga Kundalini, et développé pour méditer. C'est-à-dire que j'ai des mailloches, comme des baguettes, mais avec des plus gros embouts, et ça va être des frottements, donc c'est une expansion du son. Et chaque fois, c'est différent suivant le lieu, la météo. C'est comme faire du pain presque, on ne sait pas quel sera le résultat. À force, bien sûr, je maîtrise. C'est jouer un minimum de 40 minutes, jusque ça peut durer 2 heures. C'est jouer que d'un seul gong, on dit bain de gong. Plusieurs gongs, c'est grand bain de gong. Ça peut être en individuel, du coup, avec une vraie recherche thérapeutique, puisque ça va aller toucher autant le corps physique, éthérique, que l'esprit, dans le sens où on lâche vraiment prise, on se laisse traverser par les vibrations qui viennent percuter les molécules d'eau, en particulier. Les personnes sont allongées. Après, suivant les personnes toujours, elles peuvent être assises, bien évidemment, de préférence les yeux fermés. C'est vraiment une méditation.
Alors, dans le cadre de votre activité, vous êtes entrepreneur, mais pas que.
Alors, je suis auto-entrepreneur depuis 2017. Bon, j'étais artisan auparavant. Là, maintenant, je suis animatrice, puisque ce n'est pas reconnu officiellement comme un métier, on va dire. C'est quand même assez récent. J'interviens aussi au sein de l'association Le Chant des Sirènes, qui est domiciliée à Réan, avec d'autres personnes, comme Indiana Mézian, qui est aussi sonothérapeute.
Vous avez été contacté par Stéphane Boucreau, l'EHPAD, la maison à vivre, les jardins du Cigaloun à Vox, pour des séances pour les résidents ainsi que pour le personnel. Expliquez-nous.
Oui, effectivement, il m'a contacté parce qu'il est assez sensible à toutes ces méthodes alternatives et il voulait tester ça pour le bien-être des résidents, déjà pour une animation qui rentre dans le cadre de l'accompagnement, mais aussi et surtout, c'est là où j'ai trouvé ça très intéressant, pour son personnel, pour offrir une bulle un peu d'oxygène et de détente.
Donc, il y a une séance pour les résidents et une séance pour l'équipe.
Tout d'abord, je commence par ma pratique donc, qui s'adapte avec beaucoup de douceur aux réalités de tout public, les fragilités physiques, cognitives ou émotionnelles. J'amène des instruments qui sont choisis pour leur qualité enveloppante, sonore, surtout le volume, puis le rythme et la sensibilité de chacun. Ça, c'est pour les résidents.
Vous adaptez vos séances, par exemple, est-ce que les résidents sont allongés, assis ?
Pour les personnes âgées, on ne peut pas se permettre de les allonger, vous comprendrez bien pourquoi. Déjà, pour quelqu'un, on va dire, normalement constitué, rester une heure allongé, c'est pas évident, donc non, ils sont assis. C'est très souvent une découverte pour eux. Je commence toujours par montrer chaque instrument, le faire entendre, les yeux fermés si possible. Donc ça devient un peu un jeu, un moment d'échange et de partage. Après, je leur fais passer les instruments en question pour qu'ils puissent jouer avec. J'ai remarqué que, par exemple, un rideau fait de graines et de coquillages, au niveau sensoriel, ça les fait travailler. Il y a l'oreille sensorielle, le jeu. Il y a une espèce de retombée en enfance que je trouve très poétique. On termine par progressivement par une relaxation sonore. Donc je leur demande de fermer les yeux, ce qui n'est pas évident, parce qu'ils sont toujours quand même assez en alerte. Alors je dois dire très gentiment, avec beaucoup de bienveillance, que certains s'endorment. Et je voudrais aussi préciser que j'ai des hommes quand même qui viennent, et c'est pas évident. Surtout que c'est des personnes qui ont parfois près de 80 ans. Quand on voit déjà moi dans ma pratique, au quotidien, j'ai très peu d'hommes, mais là je suis très heureuse d'avoir les deux. Et c'est souvent d'ailleurs ceux qui participent, on va dire, échangent verbalement, ont besoin, posent beaucoup de questions. Donc on termine par une relaxation sonore. Certains s'endorment, certains ouvrent un œil, mais ça leur fait beaucoup de bien. Et j'ai remarqué que pas mal de personnes âgées sont quand même en dépression, ça je l'ai découvert. Le retour de l'animatrice, en tous les cas, me dit que ça leur amène quand même du bienfait, une bulle dans leur journée. Même si, je dois l'avouer, peut-être qu'à d'un mois sur deux, ils ne se souviennent pas avoir été là, mais en tous les cas, au niveau nerveux et émotionnel, ça, c'est un beau parc.
Ça apporte une paix mentale et une relaxation, et certains s'endorment, comme d'ailleurs dans d'autres séances, pas seulement dans les maisons de retraite. Je veux dire, certains s'endorment parce qu'il y a c'est le but, vous parliez de lâcher prise et de relaxation.
De relaxation, et tout est fait pour les amener vers cela. Très intéressant à observer. Et puis pour ce qui est de l'équipe, alors il faut savoir que c'est des gens qui sont hyper occupés. Il y a quand même un programme, enfin leur agenda, la journée est bien séquencée. Donc là, on est en train d'adapter d'autres horaires pour que l'équipe puisse quand même être là. Donc j'ai des fidèles qui vraiment font tout pour être là, et ça, c'est super sympa. Ils sont toujours très contents. Alors eux, par contre, c'est directement une relaxation sonore. Ils mettent un bandeau sur les yeux, ils sont assis et j'ai une demi-heure de jeu parce qu'ils sont pressés dans le temps. Mais en tous les cas, ça leur fait beaucoup de bien et ça les aide, enfin, c'est impressionnant, à décrocher. J'ai pu l'observer en intervenant en entreprise, que les gens reprennent leur travail après. Alors peut-être qu'ils sont un peu, peut-être pas tout à fait alignés et ancrés au départ, mais ça fait vraiment du bien. Et puis c'est un partage avec d'autres personnes de l'équipe aussi, ce qui n'est pas anodin.
Donc vous jouez pendant 30 minutes du gong ?
Non, je fais une relaxation sonore. On va dire qu'une relaxation sonore au gong, ce qui n'est pas un bain de gong. Le bain de gong, logiquement, c'est que du gong et c'est au moins une heure de temps, on va dire 45 minutes. Moi, je pratique mon protocole, c'est que je commence par une méditation d'ancrage. Je joue du gong, effectivement. Alors, dans ce cas-là, je joue un bon quart d'heure et je reviens avec divers instruments pendant 5 minutes pour que les personnes reviennent petit à petit. Et je vois que le gong fait énormément d'effet, c'est vraiment très très puissant. En tous les cas, même les personnes qui ne pratiquent ni méditation, ni yoga, n'ont pas le temps, parce que c'est un luxe, arrivent quand même à lâcher prise physiquement et mentalement. Il y a le directeur en question qui vient et qui pourtant, lui, il est quand même, il tient la barre. Donc, il arrive, je l'espère, à lâcher.
Donc, on l'aura bien compris, vous pouvez œuvrer au sein de n'importe quelle entreprise ou n'importe quel groupe.
Voilà, toute personne. Moi, je m'adapte. De toutes les manières, je suis nomade, donc je n'ai pas de lieu précis. L'offre et la demande. Au-delà des effets physiologiques, j'accorde une place essentielle à la dignité, à la relation, à la qualité de présence. C'est-à-dire que je prends tout cela pas du tout à la légère et je crée quand même des liens avec ces personnes et toute personne qui se présente à mes séances. C'est très important. Et surtout dans ces espaces de vie, le son devient un langage sensible qui rejoint les personnes là où elles se trouvent. sans attente de performance et avec humanité. Je trouve que c'est très important. Mais c'est pas juste jouer d'un instrument, même de jouer du violon, je pense, dans un EHPAD. Mais on avait eu cette conversation, il me semble, lorsqu'on s'est vu la première fois.
Oui, vous pouvez retrouver la première interview de Stéphanie de Morand sur notre site fréquencemistral.com, onglet Manosque. Et nous avions justement évoqué cette idée-là.
Voilà. Bien sûr, la musique nous transporte et nous emmène dans des endroits. Mais là, c'est intuitif et c'est des instruments qui sont vraiment tels qu'un bol, ce qu'on appelle tibétain, mais qui est chantant, ou le gong. Ça va vraiment toucher dans des endroits qui sont au-delà de juste écouter de la musique et s'installer. C'est qu'il y a vraiment un effet vibratoire, énergétique. C'est un vrai soin énergétique. Je dis toujours à la fin, buvez beaucoup d'eau parce que c'est aller toucher donc notre corps qui est fait quand même à plus de 80% d'eau. Et là, on a découvert et reconnu que le cerveau lui-même faisait 90% d'eau et de fluide. Hein. Donc, c'est pas rien. Il y a vraiment une notion aussi d'égrégore, comme on dit. C'est-à-dire qu'un groupe, c'est pas anodin. Chaque fois, chaque séance est différente, suivant les personnes qui participent, suivant les instruments, la manière dont ils vont vibrer. Je disais que c'est comme faire du pain, s'il y a l'humidité, etc. C'est peut-être idiot comme image, mais je trouve ça assez juste. Et en tous les cas, moi, je le fais vraiment. Enfin, c'est quelque chose, bien sûr, dans lequel je crois, mais parce que je sais qu'il y a un bienfait certain et qu'il faut le répéter assez souvent pour que ça intègre nos cellules, notre corps, notre esprit. Alors, le directeur Stéphane Boucrot souhaite aller plus loin dans cette expérience. C'est déjà intégrer les familles lors des séances avec les résidents. Il y a déjà eu des personnes qui ont assisté avec leurs parents, donc déjà très curieux de voir ce qu'ils traversent, ce qu'ils vivent, et puis se laissent prendre au jeu aussi. Ensuite, l'idée serait d'intégrer le village, alors bien évidemment pas dans la résidence elle-même avec les résidents, ni le staff, mais proposer une fois par mois une relaxation sonore dans le lieu, déjà pour qu'il s'intègre à la vie du village. Puis c'est une belle proposition, surtout qu'ils ont un jardin immense, des chevaux, etc. Donc il y a vraiment un potentiel énorme.
Quel est votre programme pour le mois à venir ?
Bon, déjà là, je vais intervenir bientôt de nouveau à l'EHPAD, la maison à vivre. Et puis, je suis donc à Puget, Rayanne, Marseille. Et surtout, je vais être à Vachères, à l'église Saint-Christophe, pour deux dates en juillet, une en août et deux en septembre. Il faut savoir que c'est un lieu exceptionnel, ouvert quelques mois d'été, avec des expositions, des concerts de piano, un endroit vraiment à voir. Donc l'église Saint-Christophe de Vachères. Et puis après, je pars en itinérance, je dis itinérance gong. Je mets toutes mes affaires dans ma voiture et je vais être sur la côte ouest, là où on peut me recevoir, pour proposer donc des relaxations sonores en extérieur. Mon site, c'est www.chantdessirenes.fr. Là, normalement, il y a toutes les informations, si vous voulez en savoir un peu plus. Facebook, Instagram. N'hésitez pas à me contacter. En tous les cas, je répondrai volontiers à toutes vos questions.
Les auditeurs peuvent retrouver vos coordonnées sur notre site fréquencemistral.com, onglet Manosque.